De quoi je me mêle, Mark Hughes.
Bonjour, avec le reportage qui va suivre, vous allez pénétrer dans des immeubles coopératifs où les habitants participent activement à la vie collective. C'est un reportage de Muriel Mera, réalisé par Bruno Siriba. Les mixages sont de Frédéric Chapuis. Voici « Viens chez moi, je coopère avec mes voisins ».
De quoi je me mêle ?
Ouais, non mais je te laisse... J'ai ton avis, voilà, c'est bon.
Non, mais c'est,
bon, je vais transmettre tout ce que tu as dit à notre comité de ce soir. Et puis voilà, on vous renverra des nouvelles. On vous enverra un petit PV, une petite note.
Ils indiquent les marques. Je l'ai su, mais je ne l'ai pas imprimé.
Et à tout bientôt, alors. Ciao.
Déjà
voilà, donc résultat des courses, avant que j'oublie tout ce qu'elle m'a dit, je vous fais juste part de...
Elle dit que vaut mieux investir un petit peu plus dans les cuisines et limiter ailleurs.
Alors moi j'ai sous les yeux la décision par rapport aux escaliers. Là on a économisé déjà parce qu'on a pris escalier béton, c'était la solution la moins chère.
Ouais, clairement.
Et c'était à budgéter à combien ? Là on a
218 000.
Sur le prix de base, enfin là on a économisé 20 000 balles ou
16 000 je crois.
En tout ?
C'était pas grand chose.
16 000 d'économie. Et dans les cuisines, si on prend la moins chère et la plus chère, il y a combien d'écart ?
Bah 18%.
Ouais, mais ça fait combien en chiffres, justement ?
Si vous voulez connaître la différence de prix entre les deux, donc t'as 6 000, pour les trois pièces, il y a 6 952, 7 926, donc il y a pratiquement 1 000 francs d'écart.
Ouais.
Fois 14, ça fait, il y en a 14, ça fait 14 000. Puis après, il y a l'autre, il y a 7 360. Versus 8739, donc ça fait 1500 francs d'écart, fois 22, ça fait 33 000, 33 plus 14,
ça fait 47 000.
Mera, ça discute serré là. Hein.
C'est
des gens,
hein.
C'est des gens, si on comprend bien, qui discutent pour tirer vers le bas le prix de revient de leur futur logement.
Oui, là en fait, nous sommes avec des futurs locataires d'un immeuble coopératif parce qu'il se trouve que l'un des principes des coopératives dites participatives, eh bien, c'est de permettre à des locataires de s'impliquer dans la conception de leur logement. Donc là, autour de la table, il y a des futurs habitants, un des responsables de la coopérative et des architectes.
Combien il y aura de logements dans cet immeuble ?
36, mais rassurez-vous, tous les futurs locataires ne sont pas présents là autour de la table. Ce serait beaucoup trop compliqué pour gérer les décisions. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le groupe d'habitants est divisé en sous-groupes et puis que chaque sous-groupe a la confiance de l'entier du groupe pour prendre des décisions sur tel ou tel aspect de l'immeuble. Et là, en l'occurrence, c'est une réunion du groupe cuisine.
Oui, bon. Des décisions jusqu'où ? Ils peuvent intervenir jusqu'où sur...
Alors, en ce qui concerne les grandes lignes de l'immeuble, là, ils n'ont pas leur mot à dire. L'immeuble est déjà pensé, construit, pas plus qu'ils ne peuvent décider de l'emplacement des pièces dans leur appartement. Non, en fait, les locataires sont sollicités surtout pour les finitions. Par exemple, ben, le choix du revêtement des sols, l'agencement de la cuisine, et puis également la conception des espaces communs. Là, par
chambre
exemple,
à lessive.
Entre autres, buanderie, mais là, ces futurs habitants ont un rêve quand même un peu plus important. Ils auraient envie, par exemple, d'avoir une chambre d'amis commune qui servirait à l'entier de l'immeuble. Également aussi une grande salle pour pouvoir faire des fêtes. Et puis, une cuisine avec de grosses casseroles en cuivre, si j'ai bien compris.
C'est très clair. Si on prend le plus cher de nos cuisinistes, on a plus aucune marge de manœuvre. On va devoir mettre le plancher le meilleur marché. L'escalier, on a déjà fait notre choix, mais
les carrelages,
on n'a plus aucune marge de manœuvre. Au contraire,
éventuellement enlever les stores. Là, ils ont été mis, donc il y a pas. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de marge.
Mais ça a l'air compliqué de mettre tout le monde d'accord quand on construit collectivement un immeuble.
Enfin, oui, c'est compliqué. Plus il y a de monde, plus c'est compliqué, c'est sûr. Et puis il y a d'avis différents, c'est compliqué.
C'est pas compliqué parce qu'on vote, une fois qu'on a voté, mais c'est qu'on connaît pas bien tous les paramètres qui sont en jeu, en fait. Et puis une fois qu'on croit avoir compris, après la votation des stores, certains ont réalisé qu'on peut pas ouvrir la fenêtre une fois qu'on a fermé ces stores de plus de 15 cm. Enfin, c'est vraiment entrouvert. Et ça, tout le monde l'avait pas compris au début.
Moi, je propose pas qu'on fasse le calcul du... pour voir où on arrive.
Oui,
parce qu'on a...
d'accord. Alors, tu fais 22 fois...
Il a pas de 360.
22 fois 7...
7360.
Par rapport à tout ce temps que ça prend, mais pourquoi vous faites ça? Tellement de temps, toutes ces séances.
Pourquoi qui le fait? L'architecte ou vous, les habitants?
L'architecte.
Mais dans leur mandat, c'était clair dès le départ qu'il y avait ça. Ils ne se rendaient pas compte, mais on l'a dit.
C'est la première fois
qu'on fait un immeuble coopératif, mais on imaginait bien que ça nous prendrait plus de temps, que c'est un immeuble traditionnel de logements sociaux, mais de l'autre, c'est beaucoup plus intéressant. On échange des points de vue, ça permet de voir un petit peu comment les gens ressentent le logement. On n'a pas toujours dans des projets le vécu direct des personnes qui vont y vivre.
Mais donc là, vous allez pouvoir les aider à personnaliser, mais d'un point de vue purement architectural, est-ce qu'un architecte a besoin de néophytes, de profanes pour exercer son métier?
Non, je pense pas qu'il en ait besoin. Je pense que c'est pour la pratique, pour notre volonté en fait de développer une architecture qui soit moins traditionnelle et moins répétitive. Mais c'est plus, on n'en a pas vraiment besoin en tant que tel. Ça nous enrichit personnellement.
Vous êtes surpris de comment ça se... Non ?
Non, je trouve globalement, ça a été passablement bien coaché par la CODA. Et entre autres, les premières réunions aussi par Marina. Non, mais c'est, qui, en tant que médiateur, est venue. On a eu une ou deux séances. Elle nous a appris une ou deux choses. Moi, je trouve intéressant. C'est pas évident de, entre guillemets, gérer un groupe. C'est pas, on gère rien du tout en tant qu'architecte. Mais j'entends dire qu'il y a une dynamique de groupe qui fait que... Il est des fois, c'est difficile des fois d'amener un résultat positif.
Mais c'est pour éviter les tensions, Guillaume Kaiser, que vous travaillez avec une coach. Il a parlé de Marina.
Oui, on peut dire une coach. Ou... On n'a jamais trouvé encore le nom exact de ce rôle-là. Il y a le nom de animateur. Il y avait aussi facilitateur de la participation. C'est l'idée que la qualité du travail collectif qu'on recherche, il n'est pas donné spontanément et tout de suite facilement atteignable. Parce que les gens qui se réunissent ne se connaissent pas forcément tous entre eux. Donc on part d'un ensemble d'individus qui doivent fonctionner comme un groupe, faire émerger des priorités, apprendre à s'écouter, apprendre à réagir aux propositions d'autrui qui vont dans le sens inverse de ce qu'on veut, parce que on touche très vite à l'intime, l'habitat, et on touche très vite au goût et aux couleurs. Est-ce qu'on préfère marcher sur du béton? Est-ce qu'on préfère marcher sur du bois? Et là, il y a très vite beaucoup de choses qui sortent, et puis c'est là où il faut apprendre à s'écouter, et puis aussi à accepter que le premier choix qu'on souhaite parfois individuellement, ben, c'est pas celui qui est retenu par le groupe. Et ça, c'est passé par différents exercices, beaucoup de communication, en fait. Donc, il y a différentes techniques pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens, entre guillemets, laissés pour compte dans le processus de choix, quoi.
Nicole et Gérard, bah vous êtes des futurs habitants. Sur cette nécessité de transformer tous les individus en un collectif, ça, vous avez senti qu'au départ, ce n'était pas forcément gagné ou que ce n'était pas simple, tout ce travail que vous avez enclenché?
Bon, c'est vrai que ce n'était pas évident de mettre tout le monde ensemble au début. Et puis quand on s'assied pour la première fois dans une salle avec des gens dont on se dit on va vivre avec ces gens plusieurs années, une expérience presque communautaire quand même. Non, on va être voisin.
Une forme. Mais j'aime pas trop le communautaire, ça fait toujours communauté, puis c'est
bon,
vraiment pas
ça. Enfin,
moi, je vois pas ça.
Non, bon.
C'est les points de suspension, là.
Peut-être. Faudra encore imaginer de vivre ensemble. Hein.
Il y a une mise en commun, en tout cas, dans la coopérative.
Ouais, tout à fait.
La salle commune, bah, tous les choix communs, on insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il y a des ressources qui sont mises en commun, les fonds propres, vous êtes quand même solidairement responsable de...
Non, tout à fait.
Et toute la gestion de l'immeuble, elle n'est pas confiée à une régie, elle est confiée à l'association.
Qui fait... si on s'investit dans un projet comme ça, c'est pas pour ignorer ses voisins, au contraire, c'est pour s'en rapprocher, pour avoir quand même un projet commun. Mais on se retrouve un jour dans une salle avec des gens avec qui on va partager un bout de chemin dans quelque chose d'intime, comme disait Guillaume. Donc c'est pas anodin. Alors c'est vrai qu'il y a comment dire, un ciment, une dynamique de groupe qui doit se construire. Et je trouve que ça s'est plutôt bien fait dans notre groupe.
Vous, la motivation, c'est quoi? C'est de pouvoir vous approprier finalement au mieux votre futur habitat ou de partir dans quelque chose où vous créez du collectif et vous allez imaginer ce collectif?
Bon, c'est les deux, hein, puisque le collectif, là, il prend naissance, il va vivre je ne sais combien d'années. Là, il y a une étape qui est très, à mon sens, palpitante, c'est la naissance du lieu où on va habiter, quoi, parce que c'est tout est. Une fois que tout sera fini, eh ben, on parlera d'autres choses, on s'occupera d'autres.
Est-ce qu'on va mettre comme canapé dans la salle commune. Il y a des gens qui diront ben non, on ne va pas mettre des canapés, c'est nul les canapés.
Il y aura d'autres dynamiques qui vont se créer.
Mais ça sera aussi du boulot. Enfin, Guillaume disait que vous aurez un bail associatif. Ça veut dire qu'une fois que vous intégrez l'immeuble, vous continuez à vous en occuper. C'est conciergerie, administration, enfin la totale.
On choisit.
Encore une fois, on n'est pas contraint. Hein,
on peut décider de donner la gestion, la gérance, mandater des gens, à une régie. Et puis,
C'est ça qui est intéressant parce qu'on est créatif, on peut réfléchir sur des. Voilà, quand on est dans un immeuble, on est simple locataire de base, on n'a rien le droit de dire en fait. Vous mettez un autocollant sur votre boîte aux lettres, pas de publicité, on vous l'arrache parce qu'il faut que ce soit nickel, que toutes les boîtes aux lettres aient le même look et au garde à vous. Là, ça va vraiment être différent, c'est ça qui est intéressant. Bon, on pourra pas mettre d'étiquette sur
ah, l'architecte il dit pas d'étiquette sur là.
Ils sont pas intégrés dans les boîtes aux lettres.
Il n'y a pas de boîte aux lettres.
Je vous ai dit qu'on était en avance sur notre temps.
Mais vous avez dit avant Gérard que vous aviez pas les moyens de vous payer une villa. Si vous en aviez les moyens, vous préféreriez être propriétaire que coopérateur?
C'est une question à 100 balles, ça.
Votre engagement politique va tout de suite.
Non, je préfère être propriétaire d'une maison, parce que voilà, il y aurait du terrain, il y aurait un jardin. Honnêtement, c'est vrai, mais j'en suis pas là, quoi. Non, mais je trouve que c'est une alternative très séduisante dans la crise du logement. Pour moi, c'est aussi un acte politique de s'engager dans une coopérative d'habitation de ce type, parce qu'on est hors système spéculatif. L'immeuble que j'habite actuellement, mon loyer, c'est à engraisser les actionnaires du multinational, et je vais payer un petit peu moins à la CODA, mais je sais au moins que ça va servir à financer un projet qui a de l'avenir, qui n'est pas juste pensé pour le profit. Et ça, c'est aussi une motivation sérieuse pour m'engager là-dedans.
Mais alors, si on revenait à nos cuisines, parce qu'on n'a pas résolu l'énigme.
Donc les boutons.
S'ils reviennent à leur cuisine, Muriel, on va les laisser tout seuls choisir leur cartel.
Des décisions importantes à prendre. Hein.
Les stores, les prises, etc. Dites-moi, Gérard, là, il est un peu entre deux. Engagement politique, oui, pour aller dans ce type de coopérative. En même temps, si j'avais les moyens, je me paierais bien une villa.
Oui, alors après, chacun a ses motivations pour intégrer une coopérative. Je sais, par exemple, à l'opposé, que d'autres y viennent parce qu'ils sont contre la propriété privée, surtout par rapport à la rareté du terrain, de se dire c'est pas logique d'avoir un terrain individuel, etc. Donc, hop, logement coopératif.
Alors, ils sont 36 familles ou foyers, disons, dans cet immeuble. Ils se connaissaient tous au départ ?
Non, alors absolument pas. Donc, ce qui les réunit avant tout, c'est leur désir d'habiter en coopérative. Et bien, pour pouvoir se réaliser ce rêve, ils sont devenus membres de la CODA. À Genève, la CODA, c'est la coopérative participative par excellence. Elle possède déjà 8 immeubles. Et d'ailleurs, à ma connaissance, c'est la seule coopérative participative de cette taille-là et de cette importance-là en Suisse romande. Pour vous permettre de juger, elle compte 700 membres, dont un peu moins de 200 sont logés. Vous faites le calcul, il y en a encore beaucoup qui attendent.
Bon, alors donc ils ont intégré une coopérative existante, la CODA. Comment ils se sont ensuite retrouvés autour de ce projet, ces 36 familles ?
Alors en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que l'État de Genève réserve une partie de ses terrains aux coopératives d'habitation. La CODA en a obtenu un au Grand Saconnet. À partir de là, elle a élaboré un projet. Elle en a fait part à ses membres. Et voilà, ceux qui étaient intéressés et qui correspondaient aux critères se sont vus attribuer un logement. Un des critères, par exemple, c'est le nombre de personnes qui va dépendre du nombre de pièces auxquelles vous aurez droit. Si vous êtes seul, pas plus qu'un 3 pièces, à savoir un 3 pièces genevois, une cuisine et 2 pièces.
Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces gens embarqués dans ce projet seront tous locataires. Est-ce que ça veut dire qu'il leur suffira de payer leur loyer pour habiter dans cet immeuble, pas tout à fait comme les autres ?
Oh ben non, ce serait trop simple. Non, en fait, chaque locataire doit fournir environ 5% de la valeur de son appartement, ce qui représente en moyenne, pour les immeubles de la
la CODA, 4 à 5 000 francs par pièce. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la CODA n'a pas de fonds propres, que pour obtenir des crédits, il en faut, et que ce sont donc les futurs locataires qui fournissent ces fonds propres.
Oui, mais enfin, donc, selon les chiffres, là, ça fait pour un 4 pièces Genevois autour de 20 000 francs. Il faut quand même les avoir dans sa tirelire, c'est pas la portée de tout le monde.
Ben, oui et non, parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'économie, vous pouvez prendre cette somme sur votre deuxième pilier. Et puis alors autrement, l'État de Genève accorde également des prêts à taux réduit remboursables sur 5 ans. Alors bien sûr, si vous décidez un jour de quitter la coopérative, vous ne perdez pas.
Somme.
Voilà, exactement. Et puis si on y réfléchit, c'est quand même un investissement assez intéressant, un peu plus de droits qu'un locataire standard. Vous participez à la création de votre logement, à peu près aucun risque de voir votre bail résilié, des loyers beaucoup plus bas que ceux proposés par le privé. Et puis, autre attrait qui dit qu'on a droit, pour des petits revenus à ce genre de logement, à l'intégration, 60% des gens doivent être au bénéfice d'une subvention d'aide au logement.
Avec ou sans alcool?
Avec. Ah ben c'est très bien pour les adultes.
Le punch est avec alcool. Ouais. Il faut juste rappeler ça aux enfants, quoi, que le punch est avec alcool.
Alors dans cet immeuble de Plan-les-Ouates sur le canton de Genève, eh bien on n'attend pas la fête des voisins pour se rencontrer. Des fêtes comme ça, il y en a très régulièrement.
C'est pas rue en fête, hein. Ce week-end c'est rue en fête à Genève. Hein. C'est pas rue en fête.
Enfin, c'est rue en fête dans mon quartier à la jonction et il pleut, c'est dommage pour eux. Mais bon, autre sujet.
Là, la raison de faire la fête, c'est quoi?
Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, c'est l'anniversaire d'un des locataires, mais pour d'autres fois c'est juste le plaisir de passer un moment ensemble. Bon, il faut dire que leur immeuble s'y prête, hein. Il a vraiment été conçu pour favoriser les échanges. Il y a des espaces communs dans lesquels, par exemple, sont organisés le dernier dimanche du mois un brunch et puis de façon très régulière aussi un ciné-club pour les enfants.
Alors là, on est dans un immeuble, oui, qui existe, hein, contrairement à celui qu'on a visité tout à l'heure,
qu'on
connaît, qui n'était qu'un projet, oui, un futur immeuble. Depuis quand il existe celui-ci?
Alors là, les locataires ont emménagé fin 2006. Cet immeuble, baptisé Milo, par ses locataires, a été construit à l'initiative de la CODA sur un principe écologique. Et d'ailleurs, l'année dernière, cet immeuble a gagné le prix du développement durable. Mais là, Roger, vous êtes en train de faire une chose assez particulière. C'est qu'a priori, vous allez vous servir de punch.
Oui.
Et vous avez marqué votre prénom sur le gobelet.
Oui, c'était une excellente initiative de Nadia pour réutiliser tout le temps le même verre. C'est une très bonne idée, on devrait toujours le faire, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Alors comme ça, toute la journée, j'aurai le même gobelet.
Mais donc, santé déjà, peut-être vous laisser boire un coup. Donc, moi, je savais que votre coopérative mettait l'accent sur l'écologie, mais à ce point-là, c'est vraiment un mot d'ordre prioritaire.
Bon, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a plein de petits gestes au quotidien qui peuvent être faits, puis qui peuvent, on va dire, améliorer le fonctionnement de la planète. Hein. C'est vrai que ce n'est pas des grands efforts, mais je pense que dans plein de petits détails, on peut vraiment faire quelque chose. Donc là, on le fait, je dirais, sans... sans en faire des principes comme une sorte de secte qui serait tout le temps en train de surveiller tout ce qu'on fait pas, si c'est juste, pas juste, mais c'est vrai, on y pense, c'est important d'y penser. Stéphane, l'architecte, il nous a fait un décompte de nos consommations d'eau et d'électricité. Je trouve que c'est des instruments pour essayer d'avancer, parce qu'on peut se dire, ben voilà, tiens, je consomme peut-être moins que la moyenne genevoise, mais quand même plus que mes voisins qui ont le même appartement. Est-ce que je dois changer quelque chose? Moi, je pourrais me dire que l'année passée, j'avais une lampe avec une ampoule halogène. On l'avait reprise de notre ancien appartement. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, oui, ça, c'est la chose que je dois changer dans les consommations faciles à faire, c'est de changer cette lampe et cette ampoule. Ça s'est défait depuis. Mais je pense que tout le monde peut se dire, ben voilà, se comparer un peu aux autres. Je dirais que c'est même presque ça le plus important. C'est qu'il faut être prêt à se dire, bah tiens, je pourrais changer certaines choses dans mes fonctionnements. Et ça, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un monde où on... Enfin, c'est un peu ce côté très individualiste. On a tendance à plutôt penser, je fais ce que je veux, comme je veux, personne ne doit m'emmerder. Et c'est là que, quelque part, on n'y arrive pas. Enfin, si on fonctionne sur ces valeurs-là, on n'arrivera jamais à rien.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va, et toi ?
Bien, merci.
Bienvenue.
Merci. Ça, c'est pas quelqu'un qui habite ici.
Non. Est-ce qu'on aurait dû faire un badge spécial, habitant, j'habite ici.
Des couleurs différentes, quoi, voilà.
On se demandait si on allait faire des passeports royaume de Milo.
On peut demander la nationalité.
Mm-hmm. Et l'asile politique.
Mais on prendrait bien, hein, parce que c'est sympa ici, franchement. On veut bien l'asile politique. Moi, je suis une future asile et des pommiers, mais... Ah, donc vous attendez votre entrée en coopérative. Impatiemment, exactement. Impatiemment, vous avez vraiment hâte de... Ah oui, moi, je trouve ça super sympa, alors vraiment... Moi, j'habite dans un HLM, là, où les gens ne se parlent pas, donc... Et ça, vous avez le sentiment, justement, qu'il n'y a que si on se crée un cadre de vie qu'on peut créer des liens privilégiés avec les voisins ? Vous, dans votre HLM, où on ne salue pas, vous avez essayé, par exemple ? Ben, on parle aux gens, ils vous répondent « bonjour » en maugréant, et puis c'est bon, c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Donc, ben, forcément que là, si on adhère tous aux mêmes valeurs, et puis qu'on... On essaye d'habiter dans un cadre qui nous convient à tous. Je pense que ça sera plus facile de partager que dans les immeubles où on va parce qu'on n'a pas trouvé d'autre logement, en fait. Et ben oui, là, je suis vraiment impatiente de pouvoir avoir des voisins à qui on peut parler. Ah, la voisine du dessus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivée avec des carottes et...
Et de l'humus.
Emma ?
Oui, enfin, j'ai pas cuit, c'était en boîte, les pois chiches. C'est plus pratique, ouais.
Elles sont bio en boîte ?
Malheureusement, elles en font pas. Hop là. Donc, des fois, je fais des extras.
C'est une jolie réunion, disons, sur la coursive du premier étage aujourd'hui. Hein.
C'est la famille du premier étage qui organise un barbecue. Donc, ils ont invité la famille, des amis. Et puis, ils ont la maison, bien sûr, comme il se doit.
Pourquoi bien sûr, comme il se doit ? Ça, c'est une obligation de faire participer les voisins ?
C'est spontané. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on a envie de partager, c'est ça aussi. Bien sûr, on peut aussi faire des choses rien que pour soi. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucune obligation.
On ne se sent pas coupable d'avoir envie tout d'un coup d'un moment à soi.
Ah non, non, alors, les gens sont très respectueux par rapport à ça.
En somme, il faut trouver une limite entre ses besoins d'intimité et puis le besoin de partage avec les autres.
Ça, parce
c'est,
que
ça, c'est à chacun de le trouver.
Parce que le tout communautaire...
Et, voilà, et de l'exprimer aux autres en disant « voilà mon seuil ». Pour moi, ça fonctionne bien. Moi, j'ai du plaisir à... J'ai dit, je vis un peu comme dans une cour africaine où quand je suis dans mon appartement, je suis chez moi. Il y a des espaces complètement privés. Puis quand je suis sur mon balcon, ça veut dire que je suis disponible pour une rencontre éventuelle.
Mais à mettre en pratique, tout de suite, ça s'est fait de façon idyllique où vous êtes tous trouvés ou c'est un travail au quotidien ?
Bon, c'est quand même un travail au quotidien, les relations humaines. Enfin, je veux dire, ça roule pas comme ça d'office parce que on est dans un joli immeuble et puis qu'il y a des espaces de rencontre.
Et puis alors ici, bah, c'est vrai qu'il y a un peu ça. En gros, ça fonctionne bien, mais c'est pas, on va dire, à 100%. Il y a quelques familles qui sont plus réticentes et qui fonctionnent pas de façon aussi intégrée que ce qu'on peut l'être tous ceux qui sont ici.
Ah, c'est que le vivre ensemble, ça s'improvise pas. Et...
Voilà, puis t'as complètement super fâché avec quelqu'un.
Ouais. Ouais, inventer un mode de communication entre nous, ça fait partie d'inventer ce mode de vie au jour le jour.
Avec les personnes qui jouent le jeu, ça fonctionne très bien. Puis c'est ça qui, je trouve, extrêmement réjouissant. Après, comme je dis, c'est aussi des fois des questions d'efforts qu'on est prêt à faire soi-même par rapport aux autres, quand quelque chose ne nous convient pas, comment on l'exprime, comment on avance pour passer par-dessus. Puis ça, on n'est pas tous équipés de la même chose. Ça dépend de notre vie, de notre éducation. De... Voilà, enfin, moi je pense qu'après, il faut laisser les choses un peu... Peut-être qu'elles évolueront jamais bien, peut-être que oui, mais c'est... je pense que c'est beaucoup. Il y a toujours un travail personnel, je pense, à la base quand même.
C'est l'exercice de démocratie participative au quotidien, en fait.
Exactement. Moi, je pense qu'il y a, vraiment de ça. Ah, voilà, ça, c'est encore eu la fille de nos voisins. Emma, la petite avec les cheveux bouclés, qui a un tout petit frère qui s'appelle Maïko. Salut, Emma.
Maïko, c'est le petit frère d'Emma.
Il dort encore ou bien il dort pas?
Il dort encore.
Et justement, alors je pensais des habitants dans les immeubles peut-être, enfin, plus traditionnels, ils ne sont pas forcément tous prêts à on va dire, ce travail en commun, d'essayer d'avancer ensemble. C'est peut-être ça qui est peut-être difficile dans notre société.
Ça, c'est de la contrainte.
Disons, moi, je ne sens pas ça comme une contrainte parce que j'ai justement envie, j'ai envie de faire partie et puis je nous ressens un peu comme des privilégiés. Puis j'aimerais que beaucoup d'autres personnes puissent bénéficier de ce genre d'habitat.
Bon, moi, je vais vous chercher, j'ai des choses en haut.
Je peux vous accompagner?
Pardon. Il y a un bouchon dans les
rues. Mais là, attendez, parce que du coup, il y a moins de gens et c'est moins pour que je comprenne bien. Donc là, on arrive au deuxième étage, sur votre palier. Et en fait, donc il y a votre porte d'entrée sur la droite, celle de vos voisins sur la gauche et au milieu...
Une
coursive qui fait terrasse. Ça, c'est un salon commun que vous avez entre les deux appartements?
Tout à fait, oui. Ça invite à venir boire l'apéro, à être ensemble. C'est très agréable.
Ah, puis vous avez un hamac pour les deux appartements.
Voilà,
hein.
Ouais, c'est un hamac que j'ai reçu en cadeau lorsque j'ai aménagé là. Et puis, en fait, c'est surtout les enfants qui les utilisent. Alors, entrez. Ouais,
j'ai les chaussures parce que c'est... marqué sur votre porte, merci d'enlever les chaussures.
Voilà, merci.
Et là, on pénètre dans...
C'est un trois pièces.
C'est un très bel espace. Donc là, vous avez cuisine et salon, et puis la chambre dans un coin. Ah, vous surveillez la tarte au four, pas qu'elle brûle.
Effectivement, parce que c'est pour tout à l'heure. En fait, c'est une tarte à la ratatouille.
Ce qui est génial dans votre cuisine, c'est que vous avez une fenêtre à hauteur de tête, pratiquement, et vos voisins, ils ont la même chose, et ça veut dire que vous pouvez vous voir, et enfin, c'est de nouveau très ouvert.
Oui, oui. Alors, en fait, il faut se baisser pour voir, hein. Mais l'idée, c'était pas de les mettre vraiment à hauteur des yeux, mais qu'on ait vraiment de la lumière qui vient sur le plan de travail, sur l'évier, cette ouverture, justement, sur la coursive. Et on se voit, vraiment. Mais en général, on se fait rarement coucou, parce qu'on ne voit pas la tête des gens. On voit juste le corps.
Mais on voit qu'il y a quelqu'un.
Voilà. De savoir qu'il y a une présence, c'est agréable. Je veux dire, je n'ai pas peur d'être seule, ce n'est pas le problème. Mais de savoir qu'ils sont là, c'est très chouette. Puis des fois que tu sont absents pendant 15 jours, ça ne me dérange pas. J'ai aussi plus d'intimité, c'est vrai. Je fais... Disons, je me promène d'une manière plus légère dans l'appartement à ce moment-là. Donc, c'est vrai que quand il y a des gens en face, on se comporte quand même un peu autrement que si on est tout seul. Mais voilà, c'est le jeu, quoi.
Il y a votre chat qui veut rentrer.
Ah oui, oh, Bolingo qui supporte pas la pluie. Bonjour, mon chat. Miaou. Il est très poli, il me dit toujours bonjour quand il rentre. Miaou. Il est très très bonheur. Alors en fait, où j'habitais avant, c'était un peu dans un ré inférieur, peu de soleil parce que j'étais au nord. J'avais les 6 ou 7 étages sur les épaules, donc c'est vrai qu'au bout de quelques années, ça fait un peu lourd, même si c'est plutôt psychologique, c'est clair. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant que j'habitais à plein palais, donc j'étais beaucoup à l'extérieur, et c'est vrai que depuis que j'habite ici maintenant, je m'investis ici, donc je vois beaucoup moins les autres.
Mais c'est pas un peu dangereux, entre guillemets, enfin vous vous mettez dans votre petit havre de paix?
Tout à fait, et je pense, bon, ça c'est pour moi, hein. Les autres, ils ont des relations extérieures très, très poussées, mais du coup, je pense que ce qui est important, c'est d'inviter les gens à venir. Parce que, je ne suis pas sûre que ce soit assez cuit. Parce que je vais pas regarder. Je crois que je vais la remettre un petit moment. Et puis, ah non, c'est pas là. Je suis troublée. Et puis, je vais remonter la chercher après.
Regardez ce qu'on a trouvé.
Ah oui, bon, vous n'êtes pas là. Tu sais ce qu'on va faire avec cette souris?
Non, on a fait au cimetière et on les enterre.
Elle a bougé. Mais non, tu sais, il y a les mille ans qui sont des charognards.
Mais non, elle a dedans, elle aurait une maladie. Elle a bougé. Elle est dedans.
Mais elle est morte.
Alors, comment tu t'appelles?
Basile, on te demande comment tu t'appelles.
Toi qui fais. Je m'appelle Basile.
Tu t'appelles Basile là?
Tu vis ici, hein?
Ouais.
Et ça a beaucoup changé ta vie de venir ici à Plan-les-Ouates?
Moi aussi, ça m'a changé la vie parce que chez moi, c'était beaucoup plus petit. À la place qu'on ait des balcons séparés, on a des balcons collés.
Ouverts, où il n'y a pas de séparation, ouais, où tu peux passer d'un balcon à l'autre.
Oui. Puis, c'est comme ça que ça a changé ma vie parce que aussi, j'ai eu des nouveaux copains que j'ai préférés.
De quoi je me mêle?
Bonjour mesdames. Alors voilà, ça c'est la radio Suisse Romande.
Ah d'accord, ouais.
Ça pas toutes.
Qui s'intéresse à notre quartier.
Ah oui.
Est-ce que vous auriez un petit moment à vous asseoir sous le pommier pour discuter avec d'autres?
Je vais juste chercher mes haricots, je vous retrouve là.
D'accord. Je vous accompagne.
Ah d'accord. Vous avez vu tous les jardins un
c'est
peu.
C'est magnifique, hein.
Ouais.
C'est...
Non, regarde vraiment, l'hibiscus et marais.
Oh,
les
non.
Fleurs. Elle dure qu'un jour, c'est dommage.
Oui. Et c'est une hibiscus de marais.
Oui, c'est fleur blanche.
Oui, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est très, très agréable, les jardins, surtout qu'on rencontre plus facilement les gens aussi. En hiver, on est comme chacun un peu chez soi.
Donc, vous, votre parcelle de jardin, c'est tout ce carré, là?
Oui, et puis là encore...
Avec les salades...
Oui. Oui.
C'est quoi? C'est des poireaux là-bas dans le fond?
Oui, c'est d'accord. Des poireaux, il y a des courgettes, il y a beaucoup de fleurs, parce que j'aime les fleurs. Ben, je ne suis pas hollandaise pour rien. Voilà.
Ah, ça c'est quoi? Des tomates vertes?
Oui, je les ramasse, c'est-à-dire j'essaie de les faire mûrir, ils sont tombés.
Bonne chance à cette dame avec ses tomates vertes, donc des légumes, des fleurs magnifiques. Là, on est dans une coopérative d'habitation où les gens, visiblement, disposent de jardins. Jardins communautaires ou individuels?
Qu'est-ce que j'ai envie de vous répondre? Les deux, mon général? Non, en fait, les habitants de la coopérative des Pugessies à Yverdon ont un terrain commun dans lequel chaque personne intéressée s'est créé son petit potager perso.
Oui, parce que jardin individuel dans une coopérative d'habitation à caractère participatif, on frise le
code.
Non, mais on frise le sacrilège.
Mais c'est peut-être en fait parce qu'ici la situation est particulière. La coopérative est propriétaire de tous les espaces communs, alors que les coopérateurs, eux, sont propriétaires de leurs appartements. Et même s'il y a effectivement un grand désir de partage dans le quartier des Pugessies, eh bien les habitants sont peut-être un petit peu plus dans l'individuel que dans le collectif.
Combien ils sont d'habitants dans cette coopérative?
Alors c'est une grosse coopérative, il y a 60 logements sur 10 000 mètres carrés répartis en 7 groupes de petits immeubles mitoyens.
René, qu'est-ce que je te sers?
Hello, volontiers, merci.
Voilà, Paris.
Non,
de l'eau.
Il y a du jus aussi.
Il y aura bientôt plus d'eau.
Tu fais pas du jus?
Pour nous, c'était quand même une aventure à l'époque.
Non, je crois qu'il faut dire aussi qu'il y avait, enfin pour moi, disons, c'était aussi d'être acteur. Nous n'avions pas envie d'être constamment spectateur, de voir les promoteurs construire des beaux immeubles où on n'a rien à dire, puis on entre là, puis on est content ou pas content, on prend un 4 pièces, on prend un 3 pièces.
Qui fait encore du jus?
Ça va bien. Alors au départ, il y avait aussi l'idée de construire des maisons mitoyennes comme dans des villages, donc qui sont proches les unes des autres, parce que un des objectifs était assez intéressant. La densité de ce quartier est très forte. On aurait pu construire 2 tours de 14 étages. Alors l'idée était de mettre autant de personnes au sol dans de la mitoyenneté que dans 2 tours, parce que on pouvait bénéficier de terrain pour la qualité de vie. Et puis c'était pas la villa au milieu de 1000 mètres carrés de terrain qui était privatisée et puis qui servait qu'à une famille. Bon, on était aussi un petit peu naïfs, hein. On était relativement jeunes, quoique pas trop, mais on avait...
Quoi, la quarantaine ?
Ouais, on avait la quarantaine dynamique encore. on avait envie de partager, et ça, effectivement, dans une coopérative, c'est plus fort que dans une association de copropriétaires.
Mais vous dites, on était naïfs. Ça veut dire que vous pouvez que tirer le bilan que, à terme, ces idéaux et ces envies de partage, il faut les revoir à la baisse.
On voit des failles, hein, on voit des choses qui vont bien, puis d'autres un peu moins.
C'est quoi les failles ?
Mais je crois que c'est quand même un quartier où il y a des coups de main qui se donnent, où on peut être malade et puis on reste pas seul. Il y a quand même des choses comme ça. Les failles, ben, c'est peut-être les failles qu'on trouve ailleurs dans le mouvement associatif et ailleurs dans notre société, parce que je trouve qu'il y a eu un retour en arrière ces 10 dernières années au niveau de la participation.
Ça correspond aussi à une individualisation de la société.
De la société, oui.
Je pense la manière de vivre aussi. Moi, je me rappelle très bien au début, quand on était ici au Puget-Sy, on était comme plusieurs femmes à ne pas travailler. On avait nos enfants. Et c'est vrai que la vie à ce moment-là, dans ce quartier, était vraiment différente. Il y avait plus de partage. Et à un moment donné, nous étions plusieurs femmes à reprendre le travail professionnel. Et ça change effectivement la vie d'un quartier, c'est logique.
On n'a plus le temps de s'y investir, bien sûr, on n'a plus le temps d'y être.
Il y a absence de personnes quand même. Et je crois que c'est ça qui fait que peut-être certains idiots ont peut-être pas pu tenir la route.
C'est vrai qu'au début, on était arrivé avec un idéal. Avait un idéal.
C'était quoi votre idéal,
Marie ? D'entraide, comme ça. Évidemment, moi, j'ai été souvent conduire des petits à l'école, puis aller les rechercher. On s'est beaucoup rendu de service. Et maintenant, ma foi, évidemment, ceux qui viennent maintenant... On sent que c'est plus l'esprit qu'il y avait au début, disons.
Mais les motivations des nouveaux ne sont pas les mêmes. Parce qu'il faut savoir que les appartements se vendent très bien ici dans notre quartier. Ils se vendent forcément à un prix plus élevé que le prix d'achat, mais ils restent à des prix très abordables par rapport aux constructions des PPE en ville. Alors forcément, les motivations des nouveaux, c'est d'abord ceci, puis après, ils sont obligés de devenir membres de la coopérative. Alors, il y a tout un apprentissage. On essaye de leur transmettre, mais ce n'est pas évident.
Christian, vous vous appelez, c'est ça ?
Oui, oui.
Vous, ça fait quoi ? 2 ans ?
2 ans.
Que vous êtes là ?
2 ans, oui.
L'envie de venir intégrer ce quartier ?
Ben non, en fait, c'était tout par hasard, parce qu'on cherchait à acheter un appartement. Et puis, moi, je ne savais pas. Avant de venir dans ce quartier, j'ignorais tout ça. Et puis c'est après que... Enfin, une fois qu'on s'est vraiment intéressé à l'appartement, que Christiane nous a expliqué le fonctionnement du quartier, et puis on a trouvé ça assez bien. Et puis,
d'ailleurs, voilà, vous étiez en train de préparer le renforcement de l'étendage. Ouais, donc vous êtes un des participants. Enfin, vous aimez vous impliquer dans
quand
la vie
peux,
du...
Quand j'ai le temps, oui.
Tu es actif.
Oui, oui.
Absolument.
Non, il participe beaucoup, Christian. Ouais. Il vient d'arriver, mais il est tout de suite dans le bain.
C'est plus l'esprit qu'il y avait au début, disons.
Oh bah Christian, vous êtes pas... Mais votre voisin de droite, là, lui, il a un peu l'esprit, il s'implique. Non, vous avez le sentiment que les nouveaux venus, il n'y a plus ce même...
Non. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que quand il vient une nouvelle famille, c'est qu'on ne nous la présente pas autrement, j'entends...
Ouais, mais qu'est-ce que vous
voulez ? Des fois, on raconte, je dis, mais c'est qui ça ? Je ne sais pas qui c'est.
Hein, je pense comme la grandeur, là, la grandeur de notre coopérative fait qu'on peut pas, on n'est pas au courant de tout. Bon, ici, dans notre environnement direct, si je parle donc de Christian, ben, c'est mon voisin du rez-de-chaussée. Donc, je sais, on fait connaissance, c'est normal. Enfin, il me semble.
Puis c'est vrai qu'on avait, t'avais organisé une petite apéro aussi quand on est arrivé.
On a fait quelquefois des fêtes de quartier.
Oui.
Où ça, c'était sympa. Oui. Parce que ça donnait l'occasion de se rencontrer.
Oui, tout à fait.
Et ça se perd un peu, comme cette année, on n'a pas de rencontre de quartier.
Ceux qui organisaient, ils ont organisé pendant 10 ans. Après, ils ont réalisé, c'était toujours un beau jour. Ils ont dit, on ne fait plus, mais les autres n'ont qu'à faire. Puis les autres, ben, ils n'ont pas fait.
Mais voilà. Mais là aussi,
c'est vrai que les nouveaux attendent sur les anciens parce qu'ils ont de l'expérience et puis ils savent bien faire ce genre de choses aussi.
Mais vous pouvez vous mettre un ancien puis un nouveau, vous prendre par la main, puis hop là.
Oui, oui, on pourrait. Hein, Jean-Louis?
Ah, c'est possible.
La première, de quoi je me mêle?
Le petit voisin s'appelle Jocelyn, avec un P, avec un F comme dans Martine. Le petit voisin est lingrin, de sel ou bien de sable ou bien de caféine. Le petit voisin habite au-dessus de chez nous qui, évidemment, se ment dessous. Il prend des cours de jujitsu, mais n'est pas mauvais pour dessous. Et dans tout l'immeuble, crado mais sympathique, on se chicane, on se cherche, on s'engueule gentiment. Mais le petit voisin, il est total stoïque, et d'ailleurs, il s'en fout car il est étudiant. Le petit voisin dans son T1 a des instruments assez rares et insolites, des percus, un masque malien, des cendriers et des gris-gris de bakélite. Il souffle dans un bout de bambou, un didgeridoo de pierre importe du Népal. Il joue à poser des embouts sur des bouteilles, puis l'aspire et devient tout pâle. Et dans tout l'immeuble, crado mais acceptable, on se chicane, on se cherche, on s'engueule calmement. Mais le petit voisin, il s'assied à sa table et il se roule un stick car il est étudiant. Le petit voisin, pour justifier sa bourse accordée par la fac, fait un saut hors de son T1 et intègre un amphi bondé comme un gros sac. Puis leur passé, il rentre au port, non sans avoir fait un détour par chez Bubu. Une petite partie de Fighting Simulator, mais pas plus de 4 heures, il faut pas d'abus. Et dans tout l'immeuble, crado, mais bon, ça va, on se chicane, on se cherche, on signe des pétitions. Mais le petit voisin, en lisant des mangas, rêve à des jours meilleurs, car il est étudiant. Sur le macadam citoyen, que l'on piétine quand on n'en peut plus de stagner, on voit passer le petit voisin, sous des bannières il se plaît à revendiquer. Et un peu plus de ci, moins de ça, un citino djembé devant la préfecture, les causes perdues, les grands débats, on finit par tout faire flamber dans l'aventure. Et dans tout l'immeuble, crado est pas fini, on se chicane, on se cherche à s'en rendre malade. Mais le petit voisin, dans le panier à salade, commence à regretter ses 5 ans et demi. Puis un jour le petit voisin ira pointer quelque part pour bouffer un peu. Il s'ennuiera et sera loin, le temps où il rêvait que demain serait mieux. Alors pour tromper l'amertume, comme à 18 berges en criant que ça suffit, il arpentera le bitume, rien ne changera mais au moins ça dégourdit. Au moins ça dé, au moins ça dégourdit.
Voilà, une chanson signée Chéral, s'appelle Le Petit Voisin, dans De Quoi Je Me Mêle. Et l'immeuble qu'elle évoque, sympa, crado, elle dit on se cherche, on se taquine. Muriel Murat, dans les coopératives d'habitation,
qu'est-ce que vous voulez me faire dire, que tout le monde est caractériel et se bat,
non,
c'est ça?
Que vous nous avez fait découvrir dans votre reportage, c'était un peu idyllique au niveau des relations entre voisins, hein, c'est ce qui ressortait de votre reportage. On s'engueule aussi parfois.
Bien sûr, enfin je pense, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'autant pendant la phase de construction, il peut y avoir de très fortes tensions, en général, ceux qui intègrent, qui arrivent jusqu'au bout du processus, sont vraiment très heureux d'habiter là où ils sont.
C'est qu'ils ont vraiment envie de vivre ensemble, voilà. Et ils font des compromis.
Mais par contre, on l'a entendu, effectivement, Roger... appelant les watts, nous l'a pas cachés sur 10 familles, qu'il y en a 7 qui sont vraiment homogènes, 3 qui sont voilà un peu plus, c'est plus difficile pour elles d'intégrer vraiment, parce que entre les idéaux de départ et l'application au quotidien, ben peut-être qu'on se rend compte qu'il y a une marge et qu'on n'a pas cette capacité d'être tout le temps dans le dialogue, l'écoute, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'à Plan-les-Ouates, donc ce sont des grandes coursives, des grands balcons, il n'y a pas de séparation.
On passe devant chez le voisin, on l'a compris, pour aller chez soi.
Voilà,
parfois.
Exactement. Et moi, j'ai repéré au rez-de-chaussée un balcon qu'on avait délimité. Il y avait une tenture, comme si le locataire avait besoin de dire voilà, moi, mon espace, je le définis ici, je suis chez moi. Donc voilà, c'est pas forcément tout rose, mais ça reste une idée intéressante à creuser pour ceux que ça intéresse.
Alors, le côté intéressant, c'est aussi que des locataires participent à l'élaboration des plans de leur futur logement.
Ouais.
Ça, c'est assez génial. On peut revenir sur cette idée, on l'a entendu dans votre reportage, la première séquence, c'était ça. Mais
oui, alors
là
c'est...
aussi, comment ça se passe?
Alors,
vraiment
la participation dans la construction, ça peut vite être quelque chose de complexe, à savoir, est-ce qu'on s'implique simplement leur définition, comme c'est le cas pour les habitants de la CODA? Est-ce qu'on participe tellement en amont qu'on en vient même à créer véritablement son logement, à dessiner les plans, à prendre des décisions, ce qui peut là nous amener à des aberrations architecturales si on n'est pas vraiment au fait de ce que ça signifie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous renvoyer à notre site internet. J'ai rencontré une architecte chercheuse à l'EPFL, spécialiste de l'habitat coopératif et participatif. Elle s'appelle Adriana Rabinovitch et elle nous parle de tout ça.
Alors, si vous voulez écouter son interview, vous allez sur dequoi.rsr.ch, vous cliquez sur bonus audio et vous aurez donc cette interview en exclusivité. Alors, 3 coopératives d'habitation participative, 2 à Genève, une dans le canton de Vaud, qu'on a découvert
les
grâce à vous.
Les PGC, créées dans les années 70, celle-là, ouais.
Voilà, à Yverdon. J'ai pas entendu beaucoup dans les gens interviewés d'accent kosovar ou portugais. J'ai pas l'impression qu'il y a une grande mixité sociale
dans
ces coopératives.
Parce que la mixité sociale se définit par les nationalités.
Bah,
il y avait une hollandaise
mixité,
au PGC.
En tout cas, culturelle, hein, ouais. Oui, hollandaise, voilà, mais l'immigration où les gens ont moins de moyens financiers, par exemple.
Alors, au PGC, je ne sais pas la proportion d'étrangers, mais ce qui est clair, c'est que à l'époque, lorsque ça a été construit, il y a vraiment eu une mixité sociale, puisqu'il y avait une loi fédérale qui favorisait l'accès à la propriété pour les bas revenus. Ça a permis notamment à un couple de maçons de pouvoir acquérir son logement. Il y a d'autres professions.
Bon, ça, c'est
comme
un exemple singulier, mais
voilà.
Au
plan plus général, je peux pas parler parce qu'il y a énormément de coopératives différentes. Alors, si on revient sur l'exemple de la CODA, c'est vrai qu'Adriana Rabinovitch a fait un peu le profil type des membres de la CODA.
Ils sont 700. Elle a fait une étude sur ces 700 membres.
Voilà. Et le gros, effectivement, des troupes, un peu le même profil, sensible à l'environnement, avec quand même un certain niveau d'études. On dirait quoi? Peut-être classe moyenne. Moi, j'ai rencontré une artiste peintre, appelons les Watts, un informaticien, une danseuse, un paysagiste.
Couche moyenne, profession intellectuelle. C'est quand même une histoire de bobo, essentiellement.
Non, je dirais pas bobo, parce que quand on dit bobo, dans bobo, il y a bourgeois, ce qui signifie argent. Et là, il y a une véritable mixité de revenus. Je vous rappelle qu'à l'emménagement, 60% des gens d'un immeuble de la CODA doivent être au bénéfice d'une subvention. Et puis, par rapport à cette notion de mixité sociale ou non, moi, j'aurais presque envie de vous dire and so what, parce que la CODA ne prétend pas
et
répondre.
Alors, pour ceux qui suivaient pas, là.
La CODA...
Vous trouvez que c'est un reproche infondé fait aux coopératives?
Ben oui, dans la mesure
de mixité sociale.
Où la CODA ne prétend pas détenir la solution en matière de logements sociaux. Là, elle répond à une véritable demande. Il y a des gens qui ont envie de vivre autrement, ils se tournent vers elle. Ces gens-là n'ont pas tous les moyens, puisque voilà, ils sont subventionnés. Donc là, elle répond à une véritable demande. 700 membres, à peine 200 logés. Et puis, elle fait aussi la preuve qu'avec un budget limité en matière de construction, eh bien, on arrive à faire du logement social de qualité, respectueux de l'environnement, et puis en même temps assez intelligent, parce que ces espaces communs, ça vous permet peut-être d'avoir un petit appartement, mais néanmoins une chambre d'amis à disposition quand vous voulez recevoir, une salle des fêtes pour inviter 100 personnes, quand on sait la rareté du terrain, c'est pas...
Dans certaines grandes villes,
c'est
notamment Genève, et où on parle aujourd'hui de densifier l'habitat dans les villes, c'est vrai que c'est des principes dont tous les modes d'habitat pourraient effectivement s'inspirer. Alors, 2 des 3 coopératives d'habitation dans lesquelles vous nous avez emmenés étaient à Genève. Qu'est-ce à dire? C'est vraiment le canton champion?
Alors, en Suisse romande, oui, parce que les coopératives sont beaucoup plus développées en Suisse allemande. Mais à Genève, effectivement, il y a à peu près 4,5% des logements qui sont coopératifs. Ça tient notamment au fait que l'État encourage ce type d'habitat, en mettant par exemple à disposition des terrains pour les autres cantons. Alors, Vaud, Jura, il n'y a pas grand-chose, enfin, il n'y a même aucune loi qui favorise ou non l'habitat. Dans le canton de Fribourg, il n'y a pas vraiment de loi non plus qui favorise ce type d'habitat, mais l'État avait quand même participé financièrement à la construction de l'une d'elles. Et puis, le canton de Neuchâtel vient de se doter d'une nouvelle loi qui va tendre à favoriser la construction des coopératives. Elle va donc investir dans ce type d'habitat à partir de l'année prochaine.
Merci Muriel pour ce reportage dans lequel, assez sympathique, dans lequel les voisins sont souvent des copains. Alors, des voisins qui utilisent dans leur immeuble une même salle pour faire des fêtes ou une même chambre pour loger leurs amis. Vous qui avez écouté ce reportage, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous fait envie, cette vie collective intense, ou au contraire, ça vous conforte dans votre principe du chacun chez soi? Appelez-nous pour nous donner votre sentiment sur ces coopératives d'habitation. 021 318 14 49. On écoutera dimanche prochain quelques-unes de vos réactions. 021 318 14 49.
Oui, allô, bonjour.
Pour réagir à ce que vous venez d'entendre.
Allô, vous m'avez rajeuni de 80 ans.
Y a quelqu'un?
À quoi je me mêle?
Oui, j'écoute. Très, très mécontent.
De quoi je me mêle?
Pourquoi vous ne dites pas tout?
Le répondeur.
Allô,
merci pour votre émission que
j'aimerais. Allô, oui, j'écoute. Très vivement les personnes qui en réalisent.
021 318 14 49. 021 318 14 49.
021 318 14 49.
De quoi je me mêle?
Quand la vie est un voyage, c'était le titre du reportage que nous a proposé Christophe Canu dimanche dernier, une enquête auprès de couples ou de familles qui ont tout quitté pour découvrir d'autres horizons, avec parfois dans le voyage un aspect déstabilisant, au retour, beaucoup de questions. Voici quelques-unes des réactions qu'ont suscité ce reportage.
Oui, bonjour. Votre reportage était extrêmement intéressant, mais en fait, nous sommes partis, nous, 6 mois, et vous n'avez pas du tout évoqué le sujet de personnes d'un certain âge, puisque je suis parti à 70 ans, il y a quelques années, avec mon épouse en sac à dos, et nous sommes partis 6 mois autour du monde. Ce qui me frappe dans votre reportage, c'est que les gens semblent dire ce n'est pas des vacances. Bien entendu, ce n'est pas des vacances, mais c'est de la découverte et du voyage. Et pour nous, les 6 mois se sont passés comme dans un rêve, donc sans aucun problème, voilà. À part ça, c'était extrêmement intéressant. Merci.
Oui, bonjour, je vous téléphone de la Chaux-de-Fonds parce que j'aurais eu une question, en fait. J'aurais bien voulu savoir si les personnes qui partent en voyage comme ça, même exemptées de l'armée pour les hommes, ont eu des problèmes de la part des Suisses lorsqu'ils étaient en voyage à l'étranger. Je vous pose cette question, j'ai fait un voyage en 77 en partant comme ça avec nos enfants, en abandonnant tout boulot, logement, avec un compagnon qui faisait plus normalement partie de l'armée suisse. Et en cours de voyage, on a appris par la famille qui nous recherchait, qui voulait savoir où on était, ce qu'on y faisait, et qui menaçait de nous arrêter au poste frontière. Alors écoutez, je serais intéressée d'avoir une réaction de ce côté-là. Est-ce qu'on fait partie de l'armée même quand on a été soi-disant exempté alors que le livret militaire a été envoyé? Et félicitations pour l'émission. À une fois peut-être. Au revoir.
L'équipe qui a bâti cette émission, Muriel Mera, Bruno Seriba, Frédéric Chapuis, Karine Guillamo, Oana Gazard, qui a assisté Muriel Mera dans son enquête.
Et Marc Vius.
Et voilà. Et dimanche prochain, Lausanne fera la fête, un double titre, La Belle Suisse, le festival de la radio suisse romande et l'inauguration du M2. Nous, dans De Quoi Je Me Mêle, on vous proposera en deuxième diffusion un reportage sur les ouvriers, les techniciens qui ont construit le premier métro de Suisse romande. Ce sera dimanche prochain. Là, tout de suite sur la première, il est 10h.